Chapitre 2. Affaires de famille. Kenneth n'emmena pas le navire capturé à partage. Ce sabot pâteau risquait de s'échouer en négociant les chenaux étroits et les nombreux bancs de sable qu'il fallait franchir pour arriver à destination. Après une conversation tendue, Sorcor et lui convinrent que Gingua était un port mieux adapté. Pour Kenneth, cette solution était tout à fait appropriée. Gingua n'avait-il pas été fondé quand un transport d'esclaves, chassé par la tempête, avait cherché refuge dans un des chenaux et que la cargaison avait déclenché une révolte réussie contre l'équipage? C'est ce qu'il demanda Sorcor d'un ton amusé. Oui, c'était exact. Mais Sorcor n'avait pas encore été convaincu, car il n'y avait à Gingua guère que des rochers, du sable et des huîtres. Quel avenir attendaient les esclaves qu'il venait de libérer? Un avenir préférable à celui auquel est destiné le marchand qui les avait achetés, avait répondu Kenneth. Sorcor s'était renfrogné, mais son commandant avait insisté. Le trajet avait pris 6 jours, beaucoup moins que s'ils avaient dû rallier partage, et du point de vue de Kenneth, ce temps n'avait pas été perdu. Sorcor avait vu un certain nombre de ses affranchis mourir. La maladie et la malnutrition ne disparaissaient pas simplement parce qu'un homme pouvait se dire libre. Rafo et ses aides s'étaient courageusement attelés au nettoyage du navire, dont n'émanait plus désormais la pleine puanteur d'un bâtiment esclavagiste, ce qui n'empêcha pas Kenneth d'exiger que le Marietta navigue toujours au vent par rapport à lui. Il refusait de courir le risque que l'air apporte des maladies à son bord. De même, il interdit aux affranchis de mettre le pied sur son pont sous prétexte qu'encombrer son propre navire pour désengorger les cales bondées du Fortune n'améliorerait la situation pour personne. Les esclaves avaient dû se satisfaire de se répandre sur les ponts et de s'approprier des quartiers des marins massacrés. Certains, parmi les mieux portants, furent enrôlés pour étoffer le squelette d'équipage qui manœuvrait le navire. Ce travail auquel ils n'étaient pas formés fut rude pour eux, surtout dans l'état d'affaiblissement où ils se trouvaient. Malgré tout, et en dépit des décès incessants, le moral paraissait bon sur le navire capturé. C'était pourtant pitié de voir les anciens esclaves se réjouir de pouvoir simplement respirer de l'air frais, savourer les portions de porc salé destinées à l'origine à l'équipage et le poisson qu'ils parvenaient à pêcher pour améliorer l'ordinaire. Sorcor avait réussi à chasser les serpents à l'aide de plusieurs jets de lest de la baliste installée sur le pont du Marietta, et les affranchis qui mouraient étaient toujours passés par-dessus bord, mais ils tombaient désormais dans l'eau et non plus dans la gueule avide d'un serpent. Cela paraissait procurer une grande satisfaction aux survivants, bien que franchement Kenneth ne vit pas ce que cela changeait pour les morts. Les navires arrivèrent à Gingua avec la marée montante, la lente poussée leur permettant d'emprunter le chenal qui conduisait à la baie aux ondes saumâtres. La carcasse d'un bateau pointait de l'eau peu profonde d'une des extrémités du mouillage. Le village proprement dit était constitué d'une rangée de cabanes et de maisons qui bordaient la grève. Ces habitations avaient été fabriquées à partir de vieux végrages, de bois flottés et de pierres. De minces rubans de fumée s'échappaient de quelques cheminées. 2 embarcations de pêche, faites de briques et de brocs, étaient amarrées à un ponton délabré et 5 ou 6 coracles et yoles reposaient sur la plage. Le hameau n'avait rien de prospère. Le Marietta entra le premier dans le port et Kenneth dut s'avouer qu'il ressentait une certaine fierté à voir que le mélange d'esclaves et de marins qui constituait l'équipage du Fortune lui faisait honneur. Dépourvus du savoir-faire de vieux loups de mer, les affranchis s'attachèrent néanmoins avec énergie à manœuvrer le gros navire de façon à l'ancrer convenablement. Il arborait à présent le pavillon au corbeau, connu dans toutes les îles des pirates comme l'emblème de Kenneth. Le temps que les 2 bâtiments missent leur canot à la mer, une foule s'était assemblée sur les appontements branlants pour observer les nouveaux venus avec curiosité. La communauté bigarrée d'anciens esclaves et de réfugiés ne possédait pas d'embarcation plus grande qu'un bateau de pêche. Aussi devait-il se demander, devant 2 marchands ancrés dans leur port, quelles nouvelles ou quelles denrées ils pouvaient apporter. Kenneth envoya Sorcor à terre annoncer que des enchères allaient avoir lieu pour le Fortune. Personne, sans doute, dans ce hameau pouilleux, ne disposait d'assez d'argent pour rembourser le mal qu'il s'était donné dans cette capture, mais il avait décidé de se contenter d'accepter la meilleure offre et de se débarrasser du navire puant et des esclaves qui avaient rempli ses cales. Il refusait de songer à ce que lui aurait rapporté cette cargaison d'hommes s'il avait contraint Sorcor à partager son point de vue et à faire voile vers Khalsed pour la vendre. L'occasion était perdue. Inutile de s'y attarder. Désappointement. Une petite flottille de barques se mit soudain en route et se dirigea rapidement vers le Fortune. Les esclaves se pressaient déjà au bastingage, impatients de quitter leur prison flottante. Kenit n'avait pas prévu un tel enthousiasme de la part des villageois à ouvrir les bras à sa racaille. Eh bien tant mieux. Plus vite le Fortune serait déchargé et vendu, plus vite il pourrait revenir à des tâches plus profitables. Il se tourna et donna sèchement ordre aux mousses de ne laisser personne le déranger. Pour l'instant, il n'avait aucun désir de visiter Gangua. Que les esclaves s'y rendent d'abord, puis Sorcor, on verrait alors quel accueil leur était réservé. Il passa plusieurs heures, après que le Marietta fut amarré, à étudier les cartes précises trouvées à bord du Fortune. Dissimulé en compagnie de divers documents dans un placard secret de la cabine du capitaine, elles étaient passées inaperçues aux yeux de Sorcor. Et c'est seulement lorsque Kenit avait décidé d'assouvir sa curiosité et de se rendre personnellement à bord du navire capturé qu'elles avaient été découvertes. Les documents ne présentaient que peu d'intérêt pour lui, car il n'avait trait qu'aux propriétés et revenus personnels de feu le capitaine. Kenit nota au passage qu'il avait pris soin que sa femme et son enfant ne manquent de rien. Mais les cartes, c'était une autre affaire. Et Kenit avait vu ses espoirs confirmés. Elles valaient de l'or. Les renseignements qu'elles fournissaient avaient souvent été acquis à grand prix et ne se partageaient pas avec les marchands ni les marins concurrents. Elles n'indiquaient que le trajet le plus évident pour passer les îles des pirates. Des rumeurs sur l'existence d'autres chenaux étaient portées en note, mais seule une partie très réduite de l'archipel avait été cartographiée. 7 villages pirates étaient portés sur un des documents, 2 à des emplacements erronés et un 3e abandonné depuis longtemps car trop exposé au transport d'esclaves de passage. Les capitaines de ces navires n'hésitaient pas à attaquer les hameaux pirates pour gonfler leur cargaison lorsqu'ils croisaient dans leurs eaux. C'était d'ailleurs un des griefs de Sorcor contre eux. Néanmoins, malgré ces erreurs criantes, c'était une carte très soignée du chenal principal. Pendant quelque temps, Kenit réfléchit, adossé dans son fauteuil, le regard perdu dans les nuages élevés. Enfin, il parvint à la conclusion qu'il pouvait considérer la carte comme représentant le niveau présent des connaissances des esclavagistes sur les îles des pirates et leurs détroits. En conséquence, celui qui tenait le chenal principal pouvait étrangler tout commerce. Les marchands d'esclaves n'avaient pas le temps d'explorer, de chercher de nouvelles routes. Peut-être en allait-il de même pour les vives nefs. Un instant, il se laissa aller à cet espoir, puis il secoua la tête à contre-cœur. Les vives nefs et leurs familles sillonnaient ces eaux depuis bien plus longtemps que les marchands d'esclaves. Les Chalcédiens et leur commerce de chair humaine étaient en grande partie responsables de l'existence des pirates et de leur installation dans cet archipel. Par conséquent, il fallait partir du principe que la plupart des familles de marchands qui naviguaient dans cette zone la connaissaient bien mieux que les esclavagistes. Et pourquoi leur savoir n'était-il pas plus répandu? La réponse était évidente. Nul marchand n'accepterait de faire profiter ses concurrents de son avantage. Kenit se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. Eh bien, qu'avait-il appris finalement? Rien qu'il ne sût déjà. Une vive nef serait plus difficile à capturer qu'un transport d'esclaves. Mais ce ne serait pas impossible pour autant. Il devrait mieux planifier l'opération. Voilà tout. Ses pensées se portèrent sur le navire capturé. Il abritait des hommes libres depuis 3 jours quand Kenit était enfin monté à son bord. Et grâce à leur travail, la puanteur s'était atténuée, mais pas assez pour ne pas heurter l'odorat du capitaine pirate. Il avait confié la responsabilité du navire à Rafou, qui, en définitive, se tirait fort bien de ses nouvelles fonctions. Des seaux d'eau de mer avaient été hissés à bord par centaines et les ponts supérieurs témoignaient du résultat. Néanmoins, Une odeur fétide continuait à s'échapper des écoutilles ouvertes, et la raison en était simple. Il y avait trop de monde entassé dans le navire. Les membres décharnés et les vêtements en lambeaux, les prisonniers libérés s'assemblaient sur le pont en petits groupes. Certains essayaient d'aider aux manœuvres du bâtiment, d'autres de ne pas les gêner, et d'autres encore ne s'intéressaient à rien, plongés dans la tâche absorbante de leur propre agonie. Tandis que Kenneth arpentait le pont, un mouchoir plaqué sur la bouche et le nez, les anciens esclaves ne l'avaient pas quitté des yeux. Chacun marmonnait des mots inaudibles sur son passage. Les yeux s'emplissaient de larmes et les têtes se courbaient. Tout d'abord, il avait cru que c'était la terreur qui les faisait s'aplatir devant lui. Et puis, quand il eut enfin compris que leurs murmures étaient des bénédictions et l'expression de leur gratitude, il ne sut s'il devait s'en amuser ou s'en agacer. Il recourut alors à son petit sourire habituel et se fraya un chemin jusqu'au quartier des officiers. Ces derniers avaient joui d'un luxe royal comparé aux conditions de vie des malheureux qui composaient leur cargaison. Kenneth partageait l'avis de Sorcor quant au goût vestimentaire du capitaine et, par caprice, il avait ordonné qu'on distribuât les habits aux anciens esclaves qui pouvaient en faire le meilleur usage. L'homme possédait aussi une abondante réserve d'herbes à fumer, et Kenneth s'était demandé s'il ne s'en servait pas pour masquer à ses narines l'odieux fumet de son fret. C'était une drogue à laquelle Kenneth n'avait jamais succombé, et elle aussi fut donc remise aux esclaves. Le pirate avait ensuite découvert les cartes et les documents dans l'armoire secrète du capitaine et se les était appropriés. Rien d'autre n'avait particulièrement retenu son attention dans la cabine. La banalité même des affaires de l'officier aurait été une véritable révélation pour Sorcor, s'était dit Kenneth. L'homme n'avait rien du monstre qu'avait imaginé le second. C'était un capitaine et un marchand des plus ordinaires. Kenneth avait prévu de jeter un coup d'œil sous les ponts pour voir si le navire était en bon état et fouiner ça et là au cas où Sorcor aurait négligé quelque objet de valeur lors de ses recherches. Il était donc descendu dans la cale et l'avait parcouru d'un regard larmoyant. Des hommes, des femmes et même quelques enfants dont les yeux paraissaient immenses dans leur visage émacié formaient un amas de corps perdus dans l'obscurité où l'on reconnaissait par endroits un bras ou une jambe. Tous s'étaient tournés vers lui, et la lumière de la lanterne que portait Rafo s'était reflétée dans des dizaines de paires d'yeux. Cette vision avait évoqué à Kenneth des rats entreaperçus de nuit près d'un tas de fumier.
« Pourquoi sont-ils si maigres ? » avait-il brusquement demandé à Rafo. « Le trajet depuis Jamelia n'est pas long au point de ne leur laisser que la peau sur les os, à moins qu'on ne leur ait rien donné à manger. »
Il avait alors vu avec étonnement Rafo prendre une expression compatissante. « La plupart étaient en prison pour dette. Beaucoup viennent du même village, et ils ont fait quelque chose qui a déplu au gouverneur, et il a augmenté les impôts de leur vallée. Comme aucun d'entre eux ne pouvait les payer, ils se sont tous fait rafler pour être vendus comme esclaves. Presque tout le village y est passé, et ce n'est pas le premier d'après eux. Ils ont été achetés puis parqués sans presque rien à manger, en attendant que le marchand ait reçu assez d'esclaves pour faire une cargaison. Des gens simples comme eux ne se vendent pas très cher, à ce qu'ils disent. Alors les trafiquants essaient d'embarquer des lots complets. Il fallait remplir le navire à bloc pour que le voyage soit rentable. » Le marin avait levé sa lanterne. Des chaînes pendaient au plafond comme d'étranges toiles d'araignées et sinuaient sur le plancher tels des serpents écrasés. Kenneth avait alors pris conscience qu'il n'avait vu qu'une partie des prisonniers. Derrière lui, d'autres s'étendaient en foule aussi loin que le regard portait, accroupis ou assis dans l'obscurité. En dehors d'eux, la cale était vide, le bordage nu. Seuls quelques tas de paille souillée dans les coins évoquaient un couchage au confort tout relatif. L'intérieur du navire avait été lui aussi récuré, mais le bois imprégné d'urine et d'eau de cale croupie des tréfonds du bâtiment conservaient leur puanteur méphitique. L'odeur d'ammoniac faisait abondamment pleurer Kenneth, qui avait néanmoins refusé d'essuyer ses larmes en espérant qu'elles passeraient inaperçues dans la pénombre. Serrant les dents et respirant à petits coups, il avait réussi à ne pas vomir Et alors qu'il souhaitait plus que tout au monde remonter à l'air libre, il s'était contraint à faire le tour de la cale. La foule dépenaillée s'était refermée sur son passage, parcourue de murmures. Kenneth en avait eu la chair de poule. Mais il s'était interdit de regarder derrière lui pour voir à quelle distance ces épouvantails se tenaient de lui. Une femme, plus audacieuse ou plus stupide que les autres, était venue se placer devant lui et lui avait tendu brusquement le paquet de haillons qu'elle serrait contre elle. Malgré lui, il avait baissé les yeux et vu un nourrisson emmailloté dans les guenilles.
« Il est né à bord, » avait dit la femme d'une voix rauque. « Il est né esclave, mais vous l'avez délivré !»
Du doigt, elle avait touché le X bleuâtre qu'un employé diligent avait déjà tatoué près du nez de l'enfant. La femme avait relevé les yeux vers Kenneth, une expression farouche dans le regard.
« Comment pourrais-je jamais vous remercier ?»
Le capitaine pirate avait cru qu'il n'allait pas pouvoir contenir plus longtemps son envie de vomir. À la pensée de la seule façon dont cette femme pouvait lui manifester sa gratitude, il s'était senti parcouru d'un frisson d'horreur. Elle avait une haleine qui trahissait des dents pourries et à demi déchaussées. Il avait découvert les siennes un instant en une parodie de sourire.
Appelez votre enfant sort corps. Faites-le pour moi, avait-il dit d'une voix étranglée.
L'ironie de sa réponse avait dû échapper à la malheureuse, car elle l'avait bénie en reculant, rayonnante, son nourrisson chétif serré contre sa poitrine. Aussitôt, la foule puante s'était pressée autour de lui et des cris s'étaient élevés.
« Capitaine Kenneth ! Capitaine Kenneth !»
Par un effort de volonté, il était parvenu à ne pas reculer devant cette marée. Il avait appelé d'un signe le marin qui le précédait avec la lanterne et lui avait chuchoté d'une voix sifflante dans laquelle il n'avait pu empêcher l'angoisse de percer
« Assez, j'en ai vu assez !»
Et son mouchoir plaqué sur le visage, il avait promptement escaladé l'échelle la plus proche. Sur le pont, il lui avait fallu un moment pour maîtriser les haut-le-cœur qui le convulsaient. Il s'était composé un masque inexpressif et avait contemplé l'horizon en attendant d'être sûr de ne pas s'humilier par une manifestation quelconque de faiblesse. Puis, sans enthousiasme, il avait réfléchi à ce butin que Sorcor lui avait rapporté. Le navire lui avait semblé en assez bon état, mais il n'en tirerait aucun prix intéressant si l'acheteur avait un sens olfactif un tant soit peu développé.
« Du gaspillage !» avait-il grommelé furieux. « Du pur gaspillage !»
Et sur un ordre sec de sa part, la yole l'avait ramené au Marietta. C'est alors qu'il avait décidé de se rendre à Guingois. Si le navire devait lui rapporter une somme dérisoire, au moins s'en débarrasserait-il rapidement afin de passer à d'autres affaires plus profitables. L'après-midi touchait à sa fin quand il se prépara à visiter le hameau, en songeant qu'il serait amusant d'observer la réaction des esclaves libérés devant le village et celle du village devant ce soudain afflux de population. Peut-être alors Sorcor prendrait-il conscience de l'absurdité de sa compassion. Il annonça son projet aux mousses qui fit promptement circuler la nouvelle. Le temps qu'il lisse ses cheveux, mette son chapeau et quitte sa cabine, la yole était prête à être mise à la mer et les matelots désignés pour manier les avirons, impatients comme des chiens invités à une promenade. Pour eux, toute ville, tout voyage à terre était une distraction bienvenue. Malgré le peu de temps dont ils avaient disposé, ils avaient tous enfilé une chemise propre. Il ne leur fallut que quelques minutes pour parcourir à coups de rame diligent le trajet entre leur mouillage et les pontons de Guingois. Kenneth ne prêta pas attention aux sourires complices qu'ils échangèrent pendant la traversée. Ils s'amarrèrent au pied de l'appontement. Leur capitaine grimpa l'échelle branlante, puis attendit ses hommes en essuyant avec son mouchoir la vase collée à ses doigts. Comme s'il allait distribuer des bonbons à des enfants, il tira de la poche de son manteau une poignée de piécettes, de quoi payer une petite tournée de bière pour les hommes qui l'avaient accompagné. Il remit la somme au responsable du groupe avec cette instruction nébuleuse. « Soyez prêts à reprendre les rames quand je reviendrai. Ne me faites pas attendre. » Les matelots formèrent un cercle autour de lui et Gankis se fit leur porte-parole.
« C'est pas nécessaire, capitaine.
Après ce que vous avez fait, on ne bougerait pas d'ici, même si tous les démons de la mer nous tombaient dessus. »
Cette brusque déclaration de dévotion de la part du vieux pirate prit Kenneth au dépourvu.
Qu'avait-il fait récemment qui lui valut cette soudaine affection?
Rien, autant qu'il s'en souvint.
Mais bizarrement, il se sentit aussi ému qu'amusé.
« Quoi qu'il en soit, inutile de rester ici à vous dessécher, garçon. Soyez là quand je reviendrai, c'est tout. »«
Non, capitaine, pas question. On promet tous de ne pas bouger d'ici. »
Le marin qui venait de s'exprimer ainsi eut un sourire qui fit danser le vieux tatouage de son visage. Kenny tourna le dos à ses matelots et remonta l'appontement en direction du centre du village, tandis que ses hommes discutaient du meilleur moyen de savourer leur bière tout en étant de retour à temps pour amener leur capitaine.
Kenneth se plaisait à obliger ses subordonnés à tenter de résoudre ce genre de petit dilemme.
Peut-être même cela leur affûtait-il la cervelle.
En attendant, il se creusait la sienne à tenter de déterminer pourquoi il paraissait si content de lui.
Le transport d'esclaves renfermait-il un butin dont Sorcor ne lui avait pas parlé?
Les femmes du Fortune avaient-elles promis leur faveur aux marins?
La nature soupçonneuse de Kenneth, toujours prête à se manifester, prit soudain le dessus. Il se révélerait peut-être très intéressant de savoir où se trouvait Sorcor en ce moment et ce qu'il faisait.
Avoir laissé croire aux hommes qu'ils devaient leur bonne fortune, quelle qu'elle fût, à leur capitaine ne l'excusait pas d'en avoir fait bénéficier l'équipage sans en informer son chef.
Il descendit la rue principale du village, lequel ne comptait que deux tavernes.
Si Sorcor n'était pas dans l'une, il se trouvait sans doute dans l'autre.
Cependant, il s'avéra qu'il n'était dans aucune des deux.
En revanche, la population tout entière du hameau semblait s'être rassemblée dans la rue qui séparait les deux établissements pour organiser une fête pleine d'entrain. On avait sorti des tables et des bancs, on avait tiré des tonneaux de leurs caves et on les avait mis en perce, ce qui ne fit que renforcer les soupçons de Kenneth. Qui disait réjouissance, disait argent dépensé à pleine poignée.
Aussi se composa-t-il une expression entendue accompagnée d'un petit sourire figé.
Il ignorait ce qui se tramait, mais il devait paraître au courant, sans quoi il passerait pour un niais aux yeux de tous.
« Ne dis rien, fie-toi à ta chance !»
pépia une petite voix. L'amulette fixée à son poignet éclata d'un rire mélodieux, effrayant de suavité.
« Surtout ne laisse paraître aucune crainte. Une chance comme la tienne ne supporte pas la peur. »
Et de rire à nouveau.
Le pirate n'osa pas lever le poignet pour regarder la figurine en public, et il n'était plus temps de chercher un lieu discret pour conférer avec elle, car à cet instant la foule s'aperçut de sa présence.
« Kenneth ! »
s'écria quelqu'un.
« C'est le capitaine Kenneth ! C'est Kenneth ! »
D'autres voix reprirent le cri, et bientôt le nom ébranla l'air estival. Tel un animal dérangé pendant qu'il se lèche, la populace se retourna brusquement, puis se rua sur lui comme une lame de fond.
« Du cran et souris !»
fit le visage de bois sorcier d'un ton moqueur.
Kenneth eut soudain l'impression que le sourire narquois qu'il s'était plaqué sur les lèvres avait été taillé dans la glace. Son cœur se mit à battre la chamade et la sueur à lui couler dans le dos à la vue de la racaille qui se précipitait vers lui, poing et chope levés.
Mais il n'en laissait rien paraître. Non. Au moment de l'engloutir sous leur masse, ces gens le verraient encore sourire, droit et sans peur. C'était peut-être de l'esbroufe, mais elle resterait efficace tant qu'il y croirait. En vain, il chercha le visage de Sorcor dans la vague humaine qui déferlait vers lui.
Il voulait le trouver pour veiller, si nécessaire, à ce qu'il meure avant lui-même. Mais au lieu de le broyer, les gens l'encerclèrent, une expression de triomphe sur leur visage rougi par l'alcool. Nul n'osa porter tout de suite la main sur lui. Tous restèrent à distance respectueuse de ses poings, les yeux fixés sur lui. Kenneth balaya la foule du regard à la recherche d'un signe de faiblesse ou d'un indice désignant celui qui frapperait le premier. À cet instant, une femme de forte carrure se fraya un chemin dans la presse pour venir se camper devant lui, ses poings charnus sur ses hanches généreuses.
« Je m'appelle Taïella.
déclara-t-elle d'une voix forte.
« C'est moi qui dirige Gingua !»
Et elle planta son regard dans celui de Kénith, comme si elle s'attendait qu'il conteste cette affirmation. Puis, à la grande stupéfaction du pirate, ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle laissa sans honte rouler sur ses joues. Elle reprit d'une voix soudain fêlée
« Et je vous le dis, tout ici est à vous. Demandez ce que vous voulez, quand vous le voulez. C'est à votre disposition, car vous nous avez ramené nos frères que nous ne pensions jamais revoir. »
Se fier à la chance. Il rendit son sourire à la femme, puis, en s'inclinant courtoisement et avec un regret sincère quoique muet pour la dentelle ainsi gaspillée, il lui tendit son mouchoir. Elle le saisit comme s'il était brodé d'or.
« Comment le saviez-vous ? »
demanda-t-elle d'une voix brisée par l'émotion.
« Comment avez-vous pu deviner ? Aucun d'entre nous n'arrivait à y croire. »
« J'ai mes procédés personnels, » répondit-il tout en se demandant ce qu'il était censé avoir deviné. Il ne posa cependant pas la question et ne frémit même pas quand la main de la femme s'abattit lourdement sur son épaule, sans doute en signe de bienvenue.
« Qu'on dresse une nouvelle table et qu'on la garnisse de ce que nous avons de meilleur. Faites place au capitaine Kénith. Béni soit celui qui a sauvé nos frères et nos voisins des esclavagistes et les a amenés chez nous pour y trouver la liberté et une nouvelle vie. Béni soit-il !»
La vague triomphante de la foule emporta le pirate pour le déposer sur un siège devant une table au plateau collant sur laquelle apparurent un plat de poisson cuit au four et des sortes de gâteaux farineux confectionnés à partir d'une racine broyée. Un seau de soupe de palourde épaissie d'algues parachevait le banquet. Taïela s'installa en face de Kénith et lui servit dans un bol en bois un vin tiré d'une baie amère. C'était le seul cru du village et par conséquent le meilleur. Kénith le goûta et réussit à ne pas faire la grimace. Apparemment, Taïela, elle, en avait déjà ingurgité une bonne quantité. Et le pirate jugea que le plus sage était de l'écouter le régaler de l'histoire du village tout en trempant les lèvres de temps en temps dans le breuvage. Quand Sorcor vint se joindre à eux, Kénith ne lui jeta qu'un bref coup d'œil. Pour une raison inconnue, le vieux loup de mer paraissait penaud, presque mortifié par la stupéfaction. Le capitaine pirate nota avec un amusement mêlé de consternation qu'il tenait dans ses bras le nourrisson au visage marqué d'un X. La mère se trouvait non loin dans la foule. Taïela se leva et monta sur la table pour s'adresser à la foule.
« Il y a 12 longues années, »
entonna-t-elle.
« Nous sommes arrivés ici, enchaînés, malades, certains à demi-morts. L'océan miséricordieux nous a envoyé une tempête semblable à un ouragan qui a poussé le navire dans ce chenal, que nul transport d'esclaves n'avait jamais suivi et où nul ne s'est aventuré depuis, et l'a drossé à terre. Les coups de boutoir qu'avait reçu le bateau avaient décroché bien des objets à bord, y compris un crampon qui fixait au vaigrage tout un jeu de fer. » Et malgré nos poignets et nos chevilles toujours enchaînées, nous avons tué ces chiens de Chalcédiens. Nous avons libéré nos compagnons et nous avons fait de cette baie notre refuge. Notre village n'a rien de luxueux, certes, mais pour qui a connu les cales d'un navire esclavagiste, toute terre libre est le paradis de ça. Nous avons appris à vivre ici, à nous servir des canaux du navire pour pêcher, et le temps passant, nous nous sommes même risqués à révéler à d'autres où nous nous trouvions. Mais nous savions que jamais nous ne pourrions retourner chez nous. Nos familles, notre village, étaient irrévocablement perdus pour nous. »
Elle se tourna brusquement, le doigt pointé vers Kénith.
« Jusqu'à aujourd'hui, où vous nous les avez ramenés ?»
Abasourdi, le pirate resta sans réaction, tandis que Taïela essuyait de nouveau ses larmes.
« 12 ans,
reprit-elle enfin, non sans difficulté.
« Quand ils sont venus s'emparer de nous parce que nous ne pouvions pas payer les impôts du gouverneur, je les ai combattus. Ils ont tué mon mari et ils m'ont fait prisonnière, mais ma petite fille a pu s'enfuir. Je ne pensais pas la revoir un jour, pas plus que mon petit-fils. »
Avec une expression attendrie, elle désigna le nourrisson que tenait Sorcor et qui s'appelait lui aussi Sorcor. De nouvelles larmes montèrent aux yeux de la femme qui se tut, la gorge nouée. Autour d'elle, on se pressa pour la réconforter et poursuivre le récit à sa place. Par la plus extraordinaire des coïncidences, la plupart des esclaves du Fortune étaient originaires du même village que les fondateurs de Gingua. Mais nul parmi les anciens affranchis n'y voyait la main du hasard. Tous, même Sorcor, pourtant terre à terre en général, étaient persuadés que Kennick l'avait deviné et avait décidé de réunir les esclaves nouvellement libérés avec leurs familles. C'était faux, même si Kennick en était convaincu, il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence, en effet, mais du résultat d'une force bien supérieure. La chance pure. Sa chance à laquelle il devait toujours se fier sans la mettre jamais en doute. Mine de rien, il passa un doigt sur l'amulette en bois sorcier fixée à son poignet. Allait-il dédaigner sa chance et laisser passer une telle occasion? Non, naturellement. Il devait se montrer digne d'elle et se jeter à l'eau. Affectant la timidité et l'humilité, il demanda à Taïela
« Mes hommes vous ont-ils parlé de la prophétie que m'ont faite les autres ?»
Les yeux de la femme s'agrandirent. Elle sentait l'approche d'une révélation cosmique. Telles les ondes concentriques d'un caillou jeté dans un étang, son silence gagna peu à peu toute la foule. Tous les regards se portèrent sur Kennick.
« J'en ai un peu entendu parler, » dit Taïela d'un ton circonspect.
Comme écrasé d'émotion, le pirate baissa les yeux et il murmura d'une voix grave «
Tout commence ici. »
Puis, prenant une grande inspiration, il alla chercher les mots au plus profond de lui-même et leur insuffla toute la puissance de ses poumons.
« Tout commence ici !» répéta-t-il avec force en s'efforçant de donner l'impression d'un honneur qu'il faisait aux villageois.
Et ce fut efficace. Tout autour de lui, les yeux s'emplirent de larmes. Taïela secoua lentement la tête, ne parvenant pas à y croire.
« Mais qu'avons-nous à vous offrir ? »
demanda-t-elle d'un ton presque désespéré.
« Nous sommes démunis de presque tout. Nous n'avons pas de champ à labourer, pas de résidence somptueuse. Est-ce là un départ digne d'un roi ?»
D'une voix empreinte de bonté, Kennick répondit
« Mon départ est votre départ. Vous avez un navire que j'ai capturé pour vous. Vous avez un équipage que j'ai formé pour vous. Utilisez-les. Je laisserai Rafo afin qu'il vous enseigne les règles du pavillon au corbeau. Emparez-vous de ce que vous voulez sur les bâtiments qui passeront et faites-en votre propriété. N'oubliez pas que le gouverneur vous a tout pris. » Et n'ayez aucun scrupule à récupérer votre richesse sur le dos des marchands de Jamelia qu'il nourrit de votre sang. »
Un coup d'œil au regard brillant de son second lui fournit un regain d'inspiration.
« Mais je vous préviens, ne laissez jamais passer un transport d'esclaves sans l'attaquer. Jetez les équipages aux serpents qui s'en régaleront et rassemblez les vaisseaux ici. Je ferai don à Gingua d'une pleine moitié de leur fret. Une pleine moitié !»
Il répéta bien haut ces derniers mots afin de s'assurer que sa générosité serait connue de tous.
Gardez le reste en sûreté. Sorcor et moi reviendrons avant la fin de l'année établir une liste des marchandises et vous apprendre comment les vendre au meilleur compte.
Avec un sourire forcé mais apparemment confiant, il leva son bol de vin.
Je bois ce breuvage amer. Au nom de l'avenir de miel qui nous attend. »
Un rugissement d'adoration monta de la foule. Taïela ne semblait pas se rendre compte que Kennick venait de lui prendre des mains la direction du village. Les yeux brillants comme ceux de ses compagnons, elle levait son bol aussi haut qu'eux. Même Sorcor, pourtant peu démonstratif, hurlait le nom de son capitaine à l'unisson de la foule. Un sentiment de triomphe, comme il n'en avait jamais connu, à la fois doux et cuisant, envahit l'âme de Kennick.
Il croisa le regard idolâtre de son second et comprit qu'il le tenait à nouveau bien en laisse. Il sourit à l'homme et même au nourrisson sur lequel il radotait, et un éclat de rire faillit lui échapper en voyant cette dernière pièce emboîtée. Sorcor s'imaginait avoir été honoré. Il croyait que Kenith avait donné son nom au mioche pour le récompenser. Laissant son sourire s'élargir, le pirate leva de nouveau son bol, attendit le cœur battant que les acclamations s'apaisent autour de lui et dit d'un ton faussement amène
« Faites ce que je vous enseignerai. Suivez mes lois et je vous conduirai à la paix et à la prospérité. »
Une clameur assourdissante accueillit cette déclaration. Kenith baissa les yeux d'un air modeste pour échanger discrètement un sourire complice avec le visage miniature à son poignet. Les réjouissances qui suivirent durèrent longtemps, toute la nuit et une partie de la matinée, et bien avant qu'elles soient finies, la majorité de la population de Guingois titubait, ivre de vin aigre, tandis que l'estomac de Kenith se nouait à essayer de digérer le peu qu'il en avait bu. Quant à Sorcor, il avait non seulement trouvé un moment pour supplier son capitaine de lui pardonner d'avoir douté de lui, mais encore il lui avait avoué qu'il l'avait cru sans cœur et froid comme un serpent. Kenith n'avait pas eu besoin de lui demander ce qui l'avait fait changer d'avis. Il avait déjà appris de plusieurs sources l'émotion qui avait étreint les esclaves en voyant le capitaine, un des plus endurcis des îles des pirates au dire de tout le monde, réduit aux larmes devant le spectacle pitoyable qu'ils offraient dans la cale. Il les avait sauvés, il avait pleuré sur eux, et puis il les avait rendus à la fois à la liberté et à leur famille. Kenith s'était alors aperçu qu'il aurait pu revendiquer sa position de roi sans même leur faire don du navire, mais ce qui était fait était fait. D'ailleurs, la moitié du butin que ces pouilleux parviendraient à amasser lui reviendrait sans qu'il ait à lever le petit doigt. Ce n'était pas mal pour un début. Pas mal du tout.
J'aimerais le revoir avant qu'il parte, et maman aussi, dit Kefria avant de saisir vivement sa tasse pour boire une gorgée de tisane. Elle s'efforçait de prendre l'air détaché, comme si ce qu'elle demandait à son époux était une faveur négligeable et non une requête de la plus haute importance.
Kyle Havre s'essuya la bouche et reposa sa serviette sur la table du petit déjeuner.
« Je sais, ma chère. Ce doit être dur pour toi d'être restée si longtemps sans le voir pour te le faire enlever brutalement à son retour du monastère. Mais dis-toi bien ceci. À la fin de ce voyage, tu retrouveras un jeune homme plein de santé et d'allant, un fils dont tu pourras être fier. Pour le moment, il est assez désorienté. Le travail qu'il apprend est rude, il se sent découragé et il se couche sans doute chaque soir perclus de courbatures. »
Il prit sa tasse, la regarda en fronçant les sourcils et la reposa.
« Un peu plus de tisane, je te prie. Si je l'amenais en visite ici, auprès de sa mère et de sa grand-mère, il n'y verrait que l'occasion de se plaindre. Il pleurnicherait, il supplierait, vous seriez toutes deux bouleversées et tout serait à recommencer. Non, Kefria, fais-moi confiance. Ce ne serait bon ni pour lui, ni pour toi, ni pour ta mère. La mort d'Ephron l'a suffisamment éprouvé. Évitons de lui imposer un autre choc. »
Kefria se hâta de remplir la tasse de son époux. Quand elle l'avait vu arriver ce matin-là pour partager avec elle le petit déjeuner, elle avait été ravie, certaine d'obtenir la faveur qu'elle désirait. Depuis une éternité, lui semblait-il, il avait écarté toute idée de passer le moindre instant en compagnie de son épouse. Il rentrait chaque soir, épuisé, et se levait avant l'aube pour regagner son navire. Ce matin-là, le voyant s'attarder au lit, elle avait espéré un assouplissement de son tempérament, et quand il lui avait annoncé qu'il avait le temps de prendre le petit déjeuner avec elle, ses espérances avaient atteint leur apogée. Mais elle avait reconnu le ton qu'il avait pris pour parler de Yémin. Discuter était hors de question. Mieux valait oublier ses attentes pour préserver la paix du ménage.
Plus de 15 jours s'étaient écoulés depuis que Kyle avait envoyé son fils sur le navire. Durant ce laps de temps, jamais il n'avait parlé de Yémin, de son propre chef, et il ne répondait qu'avec laconisme aux questions de sa femme. Kefria se sentait revenue au premier temps du séjour de l'enfant au monastère. Ignorant quelle vie il menait, elle n'avait rien de tangible sur quoi fonder ses angoisses. Nébuleuse et menaçante, elle se dressait néanmoins toujours à l'arrière-plan de ses pensées, quand elle n'était pas autrement occupée par le silence plein de douleur de sa mère ou la disparition d'Althea. Au moins, se disait-elle pour se consoler, elle savait où Yémin se trouvait. Et puis Kyle était son père. Il veillerait sûrement à ce qu'il ne lui arrive pas de mal et ne cacherait rien à sa femme s'il y avait lieu de s'inquiéter. Il avait raison, sans aucun doute. Sa fermeté était peut-être nécessaire. Après tout, que savait-elle des garçons de cet âge? Elle respira profondément pour se calmer, puis aborda résolument l'autre sujet qui la préoccupait. As-tu... Elle hésita. Althea est-elle revenue au bateau? Kyle fronça les sourcils.
Pas depuis le jour où cet imbécile de Torg l'a chassée. J'avais donné l'ordre de lui interdire de monter à bord, pas de lui faire prendre ses jambes à son cou. Je regrette qu'il n'ait pas eu l'intelligence de m'appeler. Crois-moi, j'aurais eu vite fait de ramener cette jeune écervelée ici, dans cette maison où est sa place.
Au ton qu'il avait employé, il était manifeste que l'opinion d'Althea sur la question n'aurait pas eu la moindre importance. À part une domestique, ils étaient seuls dans la pièce. Mais Kefria baissa néanmoins la voix.
Elle n'est pas passée voir maman. Je le sais, c'est maman qui me l'a dit. Et elle n'a pas remis les pieds à la maison. Où peut-elle donc être, Kyle? J'en fais des cauchemars. Je crains qu'elle n'ait été assassinée, ou pire encore. Une idée m'est venue l'autre nuit. Aurait-elle pu s'introduire à bord de la Vivacia sans que personne la voie? Elle a toujours eu un lien très fort avec le navire et elle est assez têtue pour y être montée et attendre pour sortir de sa cachette que vous soyez en mer, où il sera difficile de faire demi-tour et...
Elle n'est pas à bord, fit Kyle d'un ton brusque.
À l'évidence, il considérait les conjectures de Kefria comme pure baliverne de bonne femme.
Elle a sans doute loué une chambre en ville. Elle rentrera dès qu'elle tombera à court d'argent. Et à ce moment-là, je veux que tu te montres ferme. Pas question de faire l'empresser avec elle et de lui avouer les inquiétudes qu'elle t'a causées, ni de la réprimander comme une poule en colère. Ça lui sera parfaitement indifférent. Non, il faut être dur avec elle. Interdis-lui l'accès à son compte jusqu'à ce qu'elle commence à se conduire comme il faut. Et à partir de là, tiens-la d'une poigne ferme.
Il tendit la main et prit celle de sa femme avec une douceur qui contrastait avec l'âpreté de ses propos.
« Puis-je te faire confiance pour agir au mieux des intérêts d'Althea ?»«
Ce ne sera pas facile, » fit Kefria d'une voix hésitante. « Elle a l'habitude de n'en faire qu'à sa tête et... maman... »«
Je sais. Ta mère commence à éprouver des remords sur toute cette affaire. Mais la douleur affecte son jugement. Elle a perdu son mari et craint de perdre aussi sa fille. Or, elle ne la perdra pour de bon que si elle baisse les bras et lui laisse faire n'importe quoi. » Si elle veut la garder, elle doit la forcer à rentrer chez elle et à mener une vie décente. Cependant, ta mère ne voit pas les choses ainsi actuellement, je le sais. Donne-lui du temps, Kefria. Donne-leur du temps à toutes les deux. Elles finiront par se rendre à nos raisons et viendront nous remercier.
Y a-t-il ? On avait frappé. Malta passa la tête par l'entrebâillement de la porte.
Puis-je entrer ?
Demanda-t-elle d'un ton craintif.
Ta mère et moi sommes en train de discuter, dit Kyle.
Considérant qu'il avait répondu à la question, il se retourna vers son épouse sans plus prêter attention à sa fille.
J'ai eu le temps d'examiner les comptes des propriétés du Nord. Il y a 3 ans que les locataires de la ferme des Âtres n'ont pas payé leur loyer complet. Il faut les chasser, ou alors vendre la ferme, l'un ou l'autre.
Kefria prit sa tasse et la tint fermement entre ses deux mains. Parfois, quand elle devait reprendre son mari, la peur la faisait trembler. Et Kyle n'aimait pas cela.
La ferme des Âtres appartient à maman, Kyle. Elle faisait partie de sa dot. Et les locataires sont sa vieille nounou et son mari. Ils ne rajeunissent pas et maman a toujours promis à Tetna de subvenir à ses besoins. C'est pourquoi...
Kyle reposa sa tasse si brutalement que de la tisane éclaboussa la nappe blanche. Il poussa un soupir d'exaspération.
Voilà exactement le genre de raisonnement qui nous mènera tous à la ruine. Je n'ai rien contre la charité, Kefria, ni contre la fidélité à la parole donnée. Mais si ta mère doit s'occuper de ces vieux gâteux, qu'elle les fasse venir ici, qu'elle les installe dans les communs et qu'elle leur confie des tâches à leur portée, ils rendront certainement plus de services et seront plus à l'aise ici. Inutile de gaspiller toute une propriété agricole pour eux.
Mais Tetna y a grandi. Kefria s'interrompit en sursautant alors que la main calleuse de Kyle s'abattait sur la table avec violence.
Moi, j'ai grandi à Frommers, mais personne ne m'y donnera de logis quand je serai vieux, et que nous n'aurons plus un sou parce que nous aurons mal géré nos biens. Kefria, tais-toi un moment et laisse-moi finir ce que j'essaie de te dire. Je sais que cette propriété appartient à ta mère et que tu n'as pas voix au chapitre quant à ce qu'elle en fait. Je te demande seulement de lui transmettre mon conseil, et par la même occasion, cet avertissement. Plus un fifrelin ne sortira des biens de ton père pour l'entretien de cette ferme. Si elle n'est pas capable de la diriger de façon qu'elle rapporte assez pour assurer les réparations, elle devra la laisser pourrir. En tout cas, l'argent jeté par les fenêtres, c'est terminé. Ce sera tout.
Il se tourna soudain sur sa chaise et pointa un doigt accusateur vers la porte.
Malta, tu écoutes les conversations qui ne te regardent pas? Si tu tiens à jouer les servantes indiscrètes, je veillerai à ce que tu en effectues aussi les besognes.
Malta tendit le cou par la porte entr'ouverte, l'air intimidé comme il se devait.
Je te demande pardon, papa. J'attendais que vous ayez fini, maman et toi, pour te parler.
Kyle poussa un long soupir et leva les yeux au ciel.
Il faut apprendre aux enfants à ne pas déranger les gens, Kefria.
Entre donc, Malta, puisque tu ne sais pas patienter comme une jeune fille bien élevée. Que veux-tu?
Malta pénétra en crabe dans la pièce, puis voyant son père froncer les sourcils, elle se précipita devant lui. Elle lui fit une rapide révérence et dit en évitant le regard de sa mère
« Le bal de l'été est passé. Nous ne pouvions y participer, je le comprends bien. Mais l'offrande des moissons est dans 72 jours. »
« Et ?»«
J'ai envie d'y aller. »
Son père secoua la tête avec agacement. « Tu iras. Tu y vas depuis que tu as 6 ans. Tous les membres des familles de marchands s'y rendent, sauf ceux qui, comme moi, doivent prendre la mer. Je ne pense pas être revenu à temps pour m'y joindre, mais toi, tu iras. Tu le sais bien. » Pourquoi m'ennuyer avec ça?
Malta jeta un coup d'œil à l'expression désapprobatrice de sa mère, puis regarda son père d'un air grave.
Maman a dit que nous risquions de ne pas y aller cette année à cause du deuil de grand-père.
Elle reprit son souffle.
Et elle a dit que même si nous y allions, je n'avais pas encore l'âge de porter une robe de bal. Oh, papa! Je ne veux pas arriver à l'offrande des moissons habillée en petite fille. Dis l'autre, elle, qui a le même âge que moi, portera une vraie robe de bal, elle. Dis l'autre, elle, a 11 mois de plus que toi,
intervint Kefria. Elle se sentait les joues brûlantes devant l'audace de sa fille qui venait soumettre ce sujet à son père comme s'il s'agissait d'une doléance.
Et je serais fort surprise qu'elle participe au bal en robe. Moi-même, je n'ai été présenté à l'offrande qu'à 15 ans, presque 16.
Et nous sommes en période de deuil.
On n'attend pas de nous voir en fanfreluche cette année, il ne serait pas convenable.
Je pourrais mettre une robe noire. Carissa Crève est allée au bal 2 mois seulement après la mort de sa mère.
Kefria prit un ton ferme.
Nous nierons que si ta grand-mère n'y trouve rien à redire, mais cela m'étonnerait.
Et si nous nous y rendons, tu te vêtiras comme il sied à une fille de ton âge.
« Mais tu m'habilles comme une petite fille !»
cria Malta d'une voix aux accents tragiques.
« Je ne suis plus une petite fille! Oh, papa,
Elle m'oblige à porter des jupes qui me tombent à mi-mollet, avec de la dentelle à l'ourlet, comme si elle avait peur que je cours partout et que je joue dans les flaques d'eau. Et elle me force à me faire des tresses, comme si j'avais 7 ans, à nouer un ruban autour de mon col, à ne porter que des fleurs, jamais de bijoux, et...
Assez ! Fit Kefria d'un ton menaçant. Mais à sa grande surprise, son époux éclata de rire.
« Viens, Malta. Non, essuie tes larmes et viens près de moi. »
Malta obéit et il la prit sur ses genoux.
« Eh bien, voilà donc que tu te crois assez grande pour t'habiller comme une dame. Bientôt, tu vas vouloir que des jeunes gens viennent te rendre visite. »«
Papa, j'aurai 13 ans au moment du bal et... »
Kyle la fit taire d'un geste et regarda son épouse par-dessus la tête de sa fille.
« Si tout le monde y va, » fit-il d'un ton circonspect, « y aurait-il grand mal à lui laisser porter une robe de circonstance ?»«
Mais ce n'est qu'une enfant !»
protesta Kefria, atterré.
« En es-tu sûr ?»
demanda Kyle d'un ton empreint de fierté.
« Regarde ta fille, Kefria. » Si c'est une enfant, elle a des formes étonnamment généreuses. Ma mère disait toujours « Un garçon n'est un homme que quand il en a fait la preuve, mais une femme devient une femme quand elle le désire. »
Il caressa les cheveux nattés de Malta qui leva vers lui un sourire ravi, puis lança un regard suppliant à sa mère. Voir son époux soutenir sa fille contre elle bouleversait Kefria, mais elle s'efforça de cacher son émotion.
« Voyons, Kyle, Malta, ce n'est pas convenable. »«
Qu'y a-t-il d'inconvenant? Quel mal cela fait-il? Cette année, l'année prochaine, quelle importance qu'elle passe aux robes longues du moment qu'elle les porte bien et qu'elle la mette en valeur. »«
Mais elle n'a que 12 ans, » fit Kefria d'une voix éteinte.
« Presque 13, »
corrigea Malta, profitant de son avantage.
« Oh, je t'en prie, maman, dis oui. » Permets-moi d'aller à l'offrande avec une robe de bal. »
Kefria résolut de ne pas céder de terrain.
« Non, nous n'irons que si ta grand-mère nous accompagne. Ce serait choquant autrement. Là-dessus, je resterai ferme. »«
Mais si nous y allions ?»
demanda Malta d'un ton enjôleur. Elle se tourna vers son père.
« Oh, papa, promets-moi que j'aurai une robe de bal si maman me permet de participer à l'offrande. »
Kyle serra sa fille contre sa poitrine.
« Cela me paraît un compromis équitable, » dit-il à Kefria.
Puis il ajouta à l'adresse de Malta,
« Tu n'iras au bal que si ta grand-mère s'y rend elle-même. Et il n'est pas question que tu la harcèles là-dessus. Mais si elle y va, tu iras aussi et tu porteras une robe de dame. »
« Oh, merci, papa !»
fit Malta dans un souffle, comme s'il venait d'exaucer le vœu le plus important de toute son existence. Kefria se sentit envahie par une émotion si semblable à la colère qu'elle en fut étourdie.
« Maintenant, Malta, tu peux sortir. Je désire m'entretenir avec ton père.
Et puisque tu te crois assez grande pour t'habiller comme une dame, tu vas me montrer que tu en as aussi les qualités.
Finis donc la broderie qui traîne sur ton tambour depuis 3 semaines. »
« Mais ça va me prendre toute la journée !» protesta Malta, consternée.
« Je voulais aller chez Carissa voir si elle pouvait m'accompagner rue des Tisserands pour examiner des tissus. »
Elle remarqua l'expression de sa mère et sa voix mourut. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit vivement de la pièce. À peine eut-elle disparu que son père éclata de rire et Kefria songea qu'il n'aurait pas pu trouver mieux pour la vexer encore davantage. Pourtant, loin de s'excuser, il s'esclaffa de plus belle devant la colère peinte sur le visage de son épouse.
« Si tu te voyais !»
s'exclama-t-il enfin.
« Tu es furieuse parce que ta fille est passée par-dessus toi.
Mais qui puis-je? Tu sais qu'elle a toujours été ma préférée. Et puis, quel mal y a-t-il à ce qu'elle porte une robe de bal, franchement ?»«
Cela peut attirer sur elle une attention à laquelle elle n'a pas encore appris à faire face. » « Kyle !» Quand une femme se rend pour la première fois à l'offrande des moissons en robe de bal, ce n'est pas seulement qu'on a rallongé ses jupes. On la présente au tout Terrilville comme une femme adulte, ce qui signifie qu'elle est en âge de se faire courtiser.
et que sa famille est prête à étudier toutes les propositions de mariage.
« Et alors ?» demanda Kyle mal à l'aise. « Nous ne sommes pas obligés de les accepter. »
« Elle sera invitée à danser, » poursuivit Kefria implacablement. « Non par les garçons de son âge avec lesquels elle dansait jusque-là, car ils seront relégués au rang d'enfant, et elle aura statut de femme, mais par des hommes, jeunes et vieux. Or, non seulement c'est une danseuse médiocre, mais elle n'a pas appris l'art de converser avec les hommes, ni celui de repousser les attentions indésirables. Elle risque d'inciter à des avances inconvenantes, sans même s'en rendre compte. Pis, elle pourrait paraître les encourager par un sourire nerveux ou un de ces éclats de rire inopportuns propres aux filles de son âge. J'aurais préféré que tu me consultes avant de lui donner ton autorisation. »
En un clin d'œil, Kyle passa de l'embarras à l'irritation. Il se leva brusquement en jetant sa serviette sur la table.
« Je vois. Il serait peut-être plus simple que je m'installe définitivement à bord du navire pour éviter de te gêner pendant que tu décides du sort de notre famille. Tu oublies, dirait-on, que Malta est ma fille autant que la tienne. Si à 12 ans, elle n'a toujours pas appris à danser et à se comporter en société, c'est peut-être à toi que tu dois t'en prendre.
D'abord, tu envoies mon fils faire sa prêtrise, et maintenant tu te conduis comme si je n'avais pas mon mot à dire sur la façon d'élever ma fille. »
Kefria s'était levée à son tour et s'agrippait à la manche de son époux. « Kyle, je t'en prie, rassieds-toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je tiens à ce que tu participes à l'éducation de nos enfants, évidemment, mais il faut faire attention à la réputation de Malta si nous voulons qu'on la considère comme une jeune femme bien élevée. »
Mais Kyle refusa de se laisser adoucir. « Dans ce cas, je te conseille de lui faire donner des leçons de maintien et de danse, au lieu de te débarrasser d'elle en l'envoyant dans sa chambre faire de la broderie. Pour ma part, j'ai la responsabilité d'un navire, ainsi que celle d'un jeune homme à qui je dois apprendre à se tenir droit à cause d'une décision dans laquelle je n'ai pas eu mon mot à dire. » Il repoussa son épouse comme on chasse une mouche importune et quitta la pièce d'un pas furieux.
Kefria resta pétrifiée, les mains crispées devant la bouche. Au bout d'un moment, elle se laissa lentement retomber sur sa chaise. Elle inspira profondément et massa ses tempes douloureuses du bout des doigts. Des larmes refoulées lui piquaient les yeux. Que de tensions, que de disputes ces derniers temps. On eût dit que la maison ne connaissait plus un instant de paix. Kefria éprouva soudain une grande nostalgie du temps où son père était bien portant, où Althea et lui voyageaient pendant que sa mère et elle-même restaient au logis et s'occupaient des enfants et des propriétés. À l'époque, quand Kyle rentrait au port, elle avait l'impression d'être en vacances. Il commandait alors l'audacieux et on ne tarissait pas d'éloges sur lui, sur sa beauté et son allant. Ils passaient leur journée à badiner dans leur chambre jusque tard le soir, ou bien à se promener dans Terrilleville en se donnant le bras. Son coffre de marin regorgeait toujours de surprises pour elle et les enfants, et elle avait toujours le sentiment d'être une nouvelle mariée. Mais depuis qu'il avait la charge de la Vivacia, il était devenu si sérieux, et si... Elle chercha le terme approprié. Pingre lui vint à l'esprit, mais elle le repoussa. C'était un homme responsable, voilà tout. Et avec la mort de son beau-père, son sens du devoir s'était étendu à tout ce qui concernait la famille. Non seulement le navire, mais aussi la maison, les propriétés, les enfants, et même, songea-t-elle lugubrement, sa belle-sœur et sa belle-mère. Naguère, il bavardait souvent longuement le soir, de tout et de rien. Kyle aimait ouvrir les tentures pour laisser le clair de lune tomber obliquement sur leur lit à baldaquin. Alors il évoquait la fureur des tempêtes qu'il avait connues et la beauté des voiles gonflées sous un bon vent, tout en caressant Kefria avec des mains et des yeux qui exprimaient pour elle une fascination semblable à celle qu'il éprouvait pour la mer. À présent, il ne parlait plus guère que des frettes qu'il vendait bien et des marchandises qu'il embarquait. Il répétait que la prospérité ou la ruine de la famille Vestrit reposait désormais sur ses épaules, et aussi qu'un de ces jours,
il donnerait aux marchands de Terrilville une ou deux leçons de bonne gestion et de négoces avisés. Les nuits qu'ils passaient ensemble n'apportaient à Kefria ni soulagement ni repos. Quant au jour, il les occupait sur son navire. Et aujourd'hui, elle se l'avouait avec amertume. Elle n'attendait plus avec impatience que son départ en mer. Alors, elle pourrait retrouver au moins la paix des journées et des habitudes régulières. Des pas lui firent relever la tête dans un mélange d'espoir et de crainte du retour de son époux. Mais ce fut sa mère qui entra. Au regard qu'elle posa sur Kefria, puis sur les reliefs du petit déjeuner, on eût dit qu'elle ne voyait que des ombres. Puis, elle balaya la pièce des yeux comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Bonjour, maman, » dit Kefria. « Bonjour, » répondit sa mère d'un ton absent. « J'ai entendu Kyle s'en aller. »« Alors, tu es descendue ?» fit sa fille d'un ton chagrin. « Maman, je suis peinée que tu l'évites ainsi. Il y a des questions à régler, des décisions à prendre. » Ronica eut un sourire sans chaleur. « Et c'est impossible tant que Kyle est présent. » Kefria, je suis trop fatiguée et j'ai le cœur trop lourd pour prendre des gants. Ton mari ne laisse aucune place à la discussion. Je ne vois pas l'intérêt de parler avec lui, car nous ne partageons pas les mêmes points de vue, et il ne se rend qu'à sa propre opinion. » Elle secoua la tête. « En ce moment, quand je ne pleure pas ton père, je me reproche la pagaille que j'ai semée dans tout ce qu'il m'a confié. Je n'arrive à penser à rien d'autre. » Malgré sa récente rancœur contre son mari, Kefria se sentit blessée. Et c'est dans un murmure peiné qu'elle répondit « Il a bon cœur, maman. Il fait seulement ce qu'il considère comme le mieux pour nous. » « Peut-être, mais cela ne me console guère, Kefria. » Ronica prit une expression découragée. « Ton père et moi pensions en effet que c'était quelqu'un de bien, sans quoi nous n'aurions jamais consenti à votre mariage. Mais nous ne pouvions ne serait-ce qu'imaginer à l'époque ce qui s'est passé depuis. Tu aurais peut-être dû épouser le fils d'une famille de marchands. Nous n'en serions peut-être pas là si tu t'étais marié avec quelqu'un davantage habitué à nos coutumes. » Lentement et avec raideur, comme une très vieille femme, elle s'approcha de la table et s'assit. Comme si la lumière lui faisait mal aux yeux, elle détourna le visage de l'éclatant soleil matinal qui illuminait la pièce. « Regarde où nous en sommes à cause de Kyle et de sa volonté de faire notre bonheur. Althea a disparu et Yéma se trouve à bord du navire contre son gré. Ce n'est pas bon, ni pour le petit ni pour Vivacia. S'il comprenait vraiment ce qu'est une vive nef qui vient de s'éveiller, il n'y cloîtrerait pas son fils alors qu'il est si malheureux et troublé. À ce que je sais, les premiers mois de conscience d'une vive nef sont décisifs. Elle a besoin de se sentir au calme et en confiance avec son capitaine, pas d'être exposée aux émotions violentes de la contrainte et de la dissension. Quant à l'idée de Kyle de se servir d'elle pour transporter des esclaves, j'en suis malade, absolument malade. » Elle releva le visage et son regard cloua Kefria sur place. « J'ai honte de songer que tu vas laisser ton fils supporter les spectacles auxquels il va devoir assister s'il voyage à bord d'un transport d'esclaves. Comment peux-tu permettre qu'il voie cela, et pire encore qu'il y participe? En quoi va-t-il devoir se changer pour y survivre ?» Ces mots éveillèrent une indicible angoisse chez Kefria, mais elle crispa ses mains l'une sur l'autre sous la table et s'efforça de les empêcher de trembler. « Car il m'a dit qu'il ne traiterait pas Yéma durement. Quant aux esclaves, comme il me l'a fait remarquer, les faire souffrir inutilement ne ferait qu'abîmer une cargaison de valeur. Je te le jure, je lui ai parlé de tout ce que j'ai entendu dire sur les transports d'esclaves, et il m'a promis que jamais la Vivacia ne deviendrait un mouroir pestilentiel. » Même si Kyle traitait Yéma aussi délicatement qu'une petite fille, ton fils souffrirait de ce qu'il verra.
Les cales bondées, les morts, la violence obligatoire pour maintenir la discipline dans la cargaison. C'est mal, et tu le sais aussi bien que moi. »
Le ton de Ronica interdisait toute objection.
« Mais nous avons pourtant une esclave ici même. Rak, que Davad t'a envoyé quand papa était à l'agonie. »
« C'est mal, » répéta Ronica Vestrit à mi-voix.
« J'en ai pris conscience, et j'ai voulu la renvoyer à Davad, mais elle m'a supplié à genoux de n'en rien faire. On tirerait d'elle un bon prix en Khalsed, elle le sait, car elle a un peu d'instruction. Son époux y a déjà été vendu pour dette. Ils étaient originaires de Jamelia, et quand ils ont été pris dans l'engrenage de l'endettement sans parvenir à s'en sortir, son époux, son fils et elle se sont retrouvés au marché aux esclaves. Son mari, qui était un homme cultivé, a été acheté pour une forte somme, mais son garçon et elle ont été vendus pour une bouchée de pain à un des agents de Davad. »
La voix de Ronica s'assourdit.
« Elle m'a raconté son voyage jusque chez nous. Son enfant n'y a pas survécu. Pourtant, je ne pense pas que Davad Restart soit un monstre de cruauté, du moins de propos délibérés, et il n'est pas non plus pauvre au point d'abîmer exprès une cargaison de valeur. »
La mère de Kefria avait conservé un ton étrangement monocorde durant tout son discours. Et quand elle répéta les mots de Kyle de cette même voix sans timbre, sa fille en eut la chair de poule.
« Je crois que je m'étais cuirassé contre la mort, » reprit Ronica. Depuis que tes frères avaient succombé à la peste sanguine, je l'avais écarté de ma vie comme une épreuve que j'avais traversée et qui ne me regardait plus. À présent, ton père n'est plus, et cela m'a rappelé combien cette fin est soudaine et définitive. Il est déjà difficile de l'affronter quand elle arrive à la suite d'une maladie, mais l'enfant de Rak, lui, est mort parce que son petit estomac ne pouvait pas supporter les bousculades d'une cale bondée et sans air. Il n'arrivait pas à garder le pain noir et l'eau croupie que l'équipage donnait aux esclaves. Rak n'a pu que regarder son petit garçon mourir sans rien faire. »
Ronica leva les yeux vers sa fille. Kefria avait un regard torturé.
« Pourquoi n'avoir pas averti l'équipage quand on vous apportait à manger ? » ai-je demandé à Rak. « On vous aurait sûrement autorisé à passer un moment sur le pont, à l'air libre, et on aurait fourni de quoi manger à votre petit. » Elle m'a répondu qu'elle l'avait fait, qu'elle avait imploré, supplié chaque fois que les marins venaient distribuer le repas ou tirer les seaux de la cale, mais il feignait de ne pas l'entendre. Elle n'était pas la seule à bord à demander pitié. Enchaînés près d'elle, des hommes faits et des jeunes femmes sont morts aussi inutilement que son enfant. Quand des matelots sont descendus enlever son petit, en même temps que son voisin de chaîne, ils ont traîné son corps par terre, comme s'il s'agissait d'un sac de farine. Elle savait qu'ils allaient le jeter au serpent qui suivait le bateau, et ça l'a rendue folle. Par un sort singulier, c'est sa démence même qui lui a sauvé la vie. Car à force de hurler et de supplier les serpents de crever la coque pour la dévorer elle aussi, à force d'implorer ça, d'envoyer des vents et des vagues pour précipiter le navire sur les rochers, elle a réussi à ébranler les marins mieux qu'en s'adressant à eux. Il ne tenait pas à ce que cette folle qui se souciait si peu de la vie attire la mort sur eux. Ils l'ont battue, mais rien ne pouvait la réduire au silence. Alors, quand le navire a fait relâche à Terrilville, elle a été débarquée, car les matelots juraient qu'elle était responsable de la dernière tempête qu'ils avaient subie, et refusait de reprendre la mer avec elle à bord. C'est Davad qui a dû se charger d'elle, puisqu'elle était son bien. Mais il ne pouvait la déclarer comme esclave à Terrilville, et il l'a prise comme servante sous contrat. Puis il s'est mis à appréhender ses regards, car elle le rend responsable de la mort de son fils, et il nous l'a envoyée comme domestique. Tu vois donc que ce présent qu'il nous a fait dans le moment difficile que nous traversions procédait davantage de la peur que de la charité. Et c'est ce qu'est devenu Davad lui-même, je le soupçonne. Un homme gouverné par la crainte plus que par la bonté. »
Elle se tut, comme si elle réfléchissait.
Et on peut y ajouter une bonne mesure de cupidité. Je ne croyais pas Davad capable d'écouter une histoire comme celle de Rack et de poursuivre néanmoins une activité responsable de tant de malheurs. Et pourtant, il continue. Et il presse avec opiniâtreté les gens qu'il connaît de voter la légalisation de son commerce à Terrilville. Encore une fois, son regard transperça Kefria. Maintenant que tu as hérité des biens de ton père, tu détiens aussi sa voix au conseil. Nul doute que Davad va te solliciter pour que ton vote aille dans son sens. Or, si tes propres intérêts économiques coïncident avec ceux des partisans de l'esclavage, que va te demander Kyle, à ton avis? Kefria était comme paralysée. Elle n'osait pas répondre. Elle aurait voulu affirmer que son époux n'approuverait jamais la légalisation de l'esclavage à Terrilville. Mais déjà, sans que sa volonté y eût la moindre part, son esprit travaillait à établir les comptes. Si la possession d'esclaves était autorisée, certaines propriétés, les champs de céréales et la mine d'étain pourraient soudain redevenir rentables. En outre, Kyle pourrait s'épargner le long trajet jusqu'en Calcède pour écouler ses cargaisons, puisqu'il aurait le droit de vendre les esclaves sur place à Terrilville même. Avec un temps de transport moindre, une plus grande partie du fret arriverait vivante et en bonne santé pour la vente. Avec un frisson de répulsion, Kefria prit soudain conscience de la teneur de ses pensées. Une plus grande partie du fret arriverait vivante. Depuis le début, elle avait accepté l'idée que si Kyle décidait de transporter des esclaves, certains mourraient inévitablement au cours de ses voyages. De quoi? De vieillesse ou de mauvaise santé? Non. Kyle était trop avisé pour acheter des individus que la mort guettait. Elle s'attendait donc à ce que le trajet les tue. Elle l'avait accepté comme un élément inéluctable de ce commerce. Et pourquoi? Lors de ses propres déplacements en bateau, elle n'avait jamais craint pour sa santé ni pour sa vie. Par conséquent, seule la façon dont on traitait ses passagers malgré eux expliquait ses décès. Et cette façon de traiter les esclaves risquait fort de faire partie des fonctions de Yémin en tant que matelot. Son fils allait-il apprendre à faire la sourde oreille aux supplications d'une jeune femme qui demande pitié pour son enfant? Allait-il aider à jeter les corps sans vie aux serpents? Ronica avait dû suivre les réflexions de sa fille, car elle murmura « N'oublie pas que cette voix au conseil t'appartient. Tu peux la céder à ton époux si tu le souhaites. C'est ce que feraient nombre d'épouses de marchands à ta place, même si la loi de Terrilville ne l'exige pas. Mais n'oublie pas non plus que la famille Vestrit dispose d'une voix et d'une seule. Une fois que tu l'auras donnée à ton époux, tu ne pourras plus la récupérer. » Et lui pourra désigner la personne de son choix pour exprimer sa volonté en son absence. Kefria se sentit tout à coup glacée et très seule. Quoi qu'elle décide, elle en souffrirait. Indiscutablement, Kyle appuierait la légalisation de l'esclavage. Elle entendait d'ici les arguments logiques, rationnels qu'il emploierait, tout en affirmant que le sort des esclaves à Terrilville serait plus doux qu'en Calcède. Il la persuaderait, et alors sa mère perdrait tout respect pour elle. Elle s'entendit répondre d'un ton sans éclat. « Nous n'avons qu'une seule voix au conseil des marchands. Une voix sur 56. »« C'est exact, il reste 56 familles de marchands, » reconnut sa mère. Cependant, elle poursuivit dans le même souffle. « Mais sais-tu combien de nouveaux venus se sont appropriés assez de l'effort de terrain pour revendiquer une voix au conseil ?»« 27. » « Tu as l'air abasourdi, j'ai eu la même réaction. »« Il y a manifestement des gens qui s'installent au sud de Terrilville, qui accumulent les propriétés grâce à des concessions signées de la main du nouveau gouverneur, puis viennent à Terrilville faire valoir leur droit à un siège au conseil. Le second conseil que nous avons créé, par esprit d'équité afin que les immigrants aux trois bateaux disposent d'un lieu où régler leurs différends entre eux et d'une voix dans le gouvernement de Terrilville, est à présent employé contre nous. Et les pressions ne proviennent pas seulement de l'intérieur. Les Calcédiens lornent aussi notre prospérité avec convoitise. Ils ont mis en cause notre frontière septentrionale à plusieurs reprises,
Et ce jeune imbécile de gouverneur, par son absence de réaction, leur a pratiquement donné raison. Tout cela à cause des présents dont Calcède le couvre, femmes, bijoux et herbes de joie. Il ne prendra pas la défense de Terrilville contre Calcède, et il ne tiendra même pas la promesse que nous avait faite Esclépius. À ce qu'on dit, il a dilapidé le trésor de Jamélia en plaisir dispendieux, et il cherche à se procurer de l'argent frais pour ses distractions en concédant des terrains à qui gagne ses faveurs par des cadeaux ou des promesses de cadeaux. Or, ce n'est pas seulement aux nobles jaméliens qu'il fait don de notre territoire, mais à ces sycophantes calcédiens aussi. Ce que tu t'apprêtais à dire est donc peut-être exact, Kefria. Rien ne garantit qu'une seule voix suffira à empêcher les changements dont Terrilville est victime.
Ronica se leva lentement de table. Elle n'avait rien mangé, elle n'avait même pas bu une gorgée de tisane. Comme elle se dirigeait vers la porte, elle soupira.
Avec le temps, même les 56 voix des marchands ne parviendront plus à faire barrage à la volonté de cette vague de nouveaux arrivants. Et si Kosgo, ce jeune gouverneur, est prêt à violer la promesse que nous avait faite Esclépius, considérera-t-il les autres comme sacrés? Combien de temps faudra-t-il avant que les monopoles qu'on nous avait accordés soient vendus à d'autres? Je préfère ne pas songer à ce qui risque de se passer. Ce sera bien plus grave que la fin de notre mode de vie. Si des gens aussi cupides et imprudents s'aventurent à remonter le fleuve du désert des pluies, je n'ose penser à ce qu'il pourrait éveiller.
L'espace d'un instant terrifiant, Kefria se remémora la naissance de son troisième enfant. Ou plutôt la troisième fois qu'on l'avait mené au lit d'accouchement. Car ce n'était pas un enfant qui était né de cette longue grossesse et de ce pénible travail, mais seulement une créature qu'on ne lui avait pas laissé voir ni prendre contre elle. Une créature qui grognait, grondait, et se débattait violemment dans les bras de Ronica, qui l'emportait hors de la pièce. Kyle se trouvait alors en mer, et c'est son père qui avait dû accomplir l'obligation de toute famille de marchands de Terrilville. Nul n'en avait dit mot par la suite, même lorsque Kyle était rentré de voyage. Il n'avait pas posé de questions devant le berceau vide. Il avait accepté la situation, et s'était montré plein de tendresse pour Kefria. Une seule fois depuis, il avait mentionné son enfant mort-né, et elle se demandait encore si pour lui, cette expression ne reflétait pas l'exacte vérité. Il n'était pas originaire du monde des marchands, et peut-être n'arrivait-il pas à se convaincre du prix qu'il fallait payer quand on en faisait partie. Peut-être ne saisissait-il pas tout ce qu'impliquait d'avoir épousé la fille d'un marchand. Peut-être ne comprenait-il pas que Terrilville se protégeait du fleuve du désert des pluies et de ce que charriaient ses eaux autant qu'elle en profitait. L'espace d'une seconde, son mari lui apparut comme un inconnu, voire une menace. Non une menace née de la malveillance, mais inhérente à une force naturelle, telle une tempête ou un gigantesque raz-de-marée qui broie et détruit aveuglément tout ce qui se trouve sur son passage.
« Kyle est un homme bon, » dit Kefria à sa mère.
Mais Ronica avait quitté la pièce, et les mots de sa fille tombèrent sans vie dans le silence indifférent de la maison.